Merci Jonathan pour ta prière, et c'est bien compris parce qu'aujourd'hui, le sujet, vous voyez cela dans le petit livret que vous avez sur le dos des prières, il y a le plan de ce que nous allons voir ensemble. Le sujet, c'est le mépris, parce que du mépris, il y en a autour de nous. Je pense que nous ne pouvons pas éviter de mentionner le mépris qui semble avoir actuellement en Europe par rapport à Israël. S'il y a un refus de faire la distinction entre un groupe terroriste qui cible les non-combattants afin d'atteindre leurs objectifs et un État démocratique qui mène un combat afin d'éradiquer le groupe terroriste qui a pour conséquence non intentionnelle la perte des vies innocentes, il y a un problème si nous ne voyons pas la distinction. Ne pas vouloir apprécier cette distinction fait preuve, il me semble, du mépris. De se servir d'un slogan qui clairement porte une connotation génocidaire fait preuve également du mépris. Et cela dans un continent, le nôtre, qui porte une lourde responsabilité pour l'abandon de ce même peuple il y a 85 ans. Mais combien, chers amis, c'est facile de voir le mépris dans les propos de quelqu'un d'autre ou de défendre une cause qui en elle-même est juste tout en ignorant le mépris qu'il peut y avoir dans mon propre cœur. On le dit souvent, mais c'est vrai, tu pointes un doigt à quelqu'un et il y en a trois qui te pointent à toi. Le mépris n'est pas l'apanage d'un peuple, d'une seule prise de position politique ou d'une seule religion. Non, le mépris peut se trouver dans n'importe quel humain. Souvent, quand nous croyons trop vite et aveuglément ce que quelqu'un nous dit, le message véhiculé par un groupe ou un autre. Au lieu de peser avec justesse un contre-argument, on le rejette, car cela ne cadre pas avec mes présupposés. Donc attention au mépris. Mais surtout, chers amis, d'après ce que nous venons de lire, attention au mépris lorsqu'il est question du royaume des cieux. Après une pause de 15 jours, on était à la convention il y a une semaine, nous sommes de nouveau dans l'évangile de Matthieu. Et le sujet reste encore dans ce texte-ci, le royaume des cieux. Les enfants, on a chanté, cherchant d'abord le royaume des cieux. Nous sommes en fait dans la troisième parabole consécutive, après celle des deux fils et ensuite celle des vignerons, nous arrivons dans celle-ci, les noces du Fils. Et la cible principale reste la même, à savoir la fin du chapitre 21 qui précède notre texte de ce matin, verset 45, les chefs des prêtres et les pharisiens. Ça, c'est la cible principale de Jésus. Verset 1 de notre texte, Jésus leur parla encore en parabole. Il en va du règne des cieux, comme d'un roi qui faisait les noces de son fils. Donc Jésus s'adresse à des chefs religieux d'Israël de son époque. Le fait de faire cela, donc de critiquer ces chefs, ne fait pas de Jésus un antisémite. De un, car on ne parle pas d'Israël aujourd'hui dans ce texte. De deux, quand on verra plus tard que le mépris qu'il condamne n'est pas limité uniquement à ceux qui rejettent Jésus de manière directe. Et de trois, car les chefs religieux ne représentent pas l'ensemble d'Israël, bien entendu. Il y en a qui se tournent vers Jésus, des Juifs, comme Matthieu, l'auteur de cet évangile. Donc voyons dans le mépris que soulève cette parabole un avertissement d'un mépris semblable à notre époque. Car Jésus n'a pas changé. Et l'invitation de participer à son royaume reste encore aujourd'hui de l'actualité. Et c'est là, avec cette invitation, nous commençons, si vous voulez, ce matin, lorsque nous décortiquons ce que j'avais intitulé le comment de ce mépris. Car pour comprendre le mépris dont Jésus parle, nous devons d'abord comprendre l'invitation dont il est question. Donc d'abord, la valeur de cette invitation. La parabole parle d'une invitation à un mariage, un roi qui faisait les noces de son fils. Et comme pour toute célébration conséquente de l'époque, là où il n'y avait pas de système de réfrigération ni transport rapide, il fallait d'abord envoyer l'invitation et ensuite envoyer les serviteurs pour informer les invités lorsque la fête était prête. Et c'est ainsi qu'au verset 3 de cette parabole, le maître envoya ses esclaves, ses serviteurs, pour appeler ceux qui étaient invités aux noces. Et comme c'est encore le cas aujourd'hui, l'invitation à un mariage était une invitation importante. Mais c'est le mariage de pas n'importe qui, c'est le mariage du fils du roi. Participer à cette fête allait être une très belle fête d'une grande qualité. Verset 4, j'ai préparé mon déjeuner, mes bœufs et mes bêtes grasses ont été abattus. Bien sûr, j'imagine, il y aurait eu d'autres plats végétariens disponibles si la fête avait lieu aujourd'hui. Ce n'est pas rien que dans un bar ou un truc informel pour quelques amis dont nous avons affaire ici. Dans de tels cas, on comprend lorsque quelqu'un dit « Ah non, tu sais, pardon, j'ai un examen, je ne peux pas te rejoindre au café. Je dois travailler ou j'ai ma mère qui m'a téléphoné ou je dois lui répondre et ainsi de suite. » Non, lors d'un mariage, si vous êtes invité au repas, c'est un honneur. Ça me fait penser à notre honte à nous en tant que famille ou en tant que parents pour nos pauvres enfants. On avait fait presque 7 heures de route pour arriver à un mariage auquel on était invité, pour découvrir, une fois qu'on arrive sur place, en fait, qu'on n'était pas invité pour le repas. Quelle erreur un peu gênante. Mais être invité pour le repas, ça signifie que les préparatifs sont conséquents. Il y a un plan pour votre place à table. Tout est soigneusement réfléchi. Les dépenses sont considérables. C'est un événement exceptionnel. Être invité, c'est un privilège. Et lorsque donc Jésus se sert de l'image d'un mariage pour signifier l'invitation de participer au royaume des cieux, il est conscient, comme Jonathan a évoqué pour nous, du symbolisme de la fête qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, pour désigner le royaume. Encore écoutant deux de ces versets cités par Jonathan. « Sur cette montagne, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents plein de moelle, de bon vin clarifié. » Et à la fin de la Bible, cette image d'une fête est appelés les noces de l'agneau, l'union du fils du royaume, le Seigneur Jésus-Christ, et son peuple, l'Église. Et je pense qu'il y a un danger dans l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, ici en Belgique. Peut-être surtout si nous sommes adolescents, et je sais que la plupart de vous, vous êtes par là. Mais il y a un danger de voir l'Église comme une corvée, une punition même à subir. Oh non, encore, aujourd'hui, je dois fréquenter l'Église. Peut-être vous êtes invité par quelqu'un et par respect, vous êtes là. Mais vous vous dites, mais quand est-ce qu'il va terminer, ce gars qui parle? Même de voir l'agape que nous allons prendre après, vous êtes tous invités à cette agape. comme étant plutôt un moment imposé où nous devons manger quelque chose d'un peu bof que quelqu'un d'autre a apporté et que d'habitude je ne mangerai jamais, au lieu de pouvoir rentrer chez moi pour manger convenablement et se dire que le royaume des cieux, par conséquent, est comme un culte ou une agape éternelle, ça ne donne pas envie. Mais ce n'est pas ainsi, le royaume des cieux, même si notre agape est en fait très agréable. Le royaume est comme un mariage de première classe, chers amis, avec tout ce que tu n'aurais jamais imaginé sur l'assiette. Des plats succulents, de bons vins. Cela parle donc de joie, de débordement de cœur. Je réfléchis au mariage des Kérés. Vous vous souvenez certains de Samuel et Stéphanie Kéré et leur fils qui s'est marié à Claudia. Voilà, maintenant ça me revient. Et on mangeait non seulement un festin le soir, mais on mangeait le lendemain matin à midi des galettes bretonnes. Et c'était magnifique. Et tout le monde était dans la joie d'y être, pas juste pour une soirée, mais pour tout un week-end. C'est un petit clin d'œil d'une qualité de fête dont nous allons pouvoir participer. Se dire que le royaume des cieux, par conséquent, est comme quelque chose d'ennuyant ne convient pas. Le royaume des cieux est quelque chose de glorieux. Et ça dure pour combien de temps ? Pour toujours. Le prophète Ésaïe évoque ensuite un monde dans lequel il n'y aura plus de tristesse, plus de péché, plus de mort. Alors il suffit juste de penser à l'ensemble de cette semaine écoulée, que cela soit le plan local de notre Église ou mondial, pour voir à quel point un tel monde nous échappe jusque-là. Il y a le frère de Gisèle, le mari de Gisèle, Richard, qui est encore à l'hôpital aujourd'hui pour des problèmes respiratoires liés à des problèmes cardiaques. Il y a Suzy, qui est au Cameroun actuellement. Il y a Paulin, ici présent. Tous les deux ont perdu leur maman pendant cette semaine écoulée. Il y a Justine, quelque part je l'ai vue ici, qui a perdu son beau-frère aussi cette semaine. C'est lourd à porter de tels événements, chers amis. Nous avons prié avec Christine pour nos frères et sœurs. Sur le plan mondial, ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? La guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, des otages traités, nous ne savons pas comment. Ce monde dont parle Ésaïe, dont évoque ce festin, nous n'y sommes pas encore. Et Jésus, figurez-vous, il nous invite à sa fête, à ses noces. Le royaume des cieux dans toute sa splendeur, un royaume dont il a déjà inauguré et dont ses miracles effectués lors de son ministère témoignent de la grandeur, de la puissance de ce royaume. Et l'effet transformatrice que cela pourrait avoir. Donc voilà la valeur de l'invitation. Face à une telle invitation, qui dirait non? Alors, les premières personnes qui disent non, ce sont les premiers invités dans cette parabole. Ils ne voulurent pas venir, verset 3. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Attends, c'est vrai? Ça ne vous intéresse pas? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est le roi qui t'invite à cette fête. La patience et la bonté derrière du roi sont évidentes au verset 4. Il envoya encore d'autres esclaves en leur disant « Allez dire aux invités, j'ai préparé mon déjeuner. » À savoir donc le premier repas de la fête. Mes bœufs, mes bêtes, graisses ont été abattues. Tout est prêt, venez aux danses. Mais peu importe. Car la réaction négative devient plus explicite par la suite. Verset 5. Ils ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Et il y a bien entendu derrière du mépris. Mépris pour le roi et le mariage de son fils. pour eux, ce n'est pas quelque chose qui mérite qu'on y consacre du temps, à un point qu'ils sortent des excuses lamentables, chers amis. Festin de la fin du temps, pour toujours, avec le Dieu de l'univers. Oh, mais tu sais, je suis un peu plus terre à terre, moi. Je dois m'occuper plutôt de ma maison. Après tout, je suis né avec une brique dans le ventre, non? Royaume des cieux. Oh, dis, c'est gentil, mais tu sais, je suis un peu à la bord ici. J'ai un projet à terminer, j'ai pas vraiment le temps. Pardon définitif et une place auprès de vos créateurs et maîtres, là où il n'y a plus de tristesse, plus de mort. Oh, bof, mais je dois préparer quand même un examen, tu sais. Ou j'ai un rendez-vous plutôt à l'hôpital la semaine prochaine. Je dois brûler encore plus de calories sur le tapis roulant Basic Fit le dimanche matin. Donc pas vraiment de temps pour ça, tu sais. Autrement dit, ce que tu m'offres ne m'intéresse pas. Noce du fils, invitation du roi. Bon, il n'est pas mon roi, hein, tu sais. Comme disent certaines personnes au roi Charles III, là maintenant, au Royaume-Uni, lorsqu'il était couronné, il y avait des personnes avec des bannières. Pas mon roi. Après, c'est pire, verset 6. Les autres se saisirent des esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Jésus sait, bien sûr, que déjà les chefs des prêtres et des pharisiens aimeraient faire exactement cela à son sujet. Il l'a déjà prédit dans l'évangile de Matthieu, déjà à la fin du chapitre précédent, 21. Il cherche à l'arrêter. Comme ça, on ne doit plus entendre parler de ce roi qui nous gêne. Il y a donc une façon polie de s'opposer à Jésus et son règne. Fait des excuses, mais ensuite il y a une façon plus violente. Mais les deux moyens employés reviennent aux mêmes, du mépris pour le roi et pour son royaume. Vous savez, celui qui jure le nom de Dieu dirait souvent que ce n'est pas grave qu'il dit nom de Dieu, car par cela il ne veut rien dire. C'est juste une façon de parler. Pourquoi être gêné par cela? Mais c'est exactement cela, hein, ce qui est en train d'avoir lieu. Ça ne signifie rien pour une telle personne. C'est dédaigner le nom de Dieu ou de Jésus-Christ. Qui est-il, Dieu, Jésus-Christ? Quelqu'un qui n'a aucune importance pour moi, à un point que je le traite comme un gros mot. Alors, de même pour celui ou celle qui dit être plus occupé par son travail ou ses animaux ou sa famille ou ses études, c'est de dire que Jésus-Christ n'a aucune importance pour moi. Refuser de participer à la fête, de venir à Jésus, le Fils, reconnaître qu'il est loin de Dieu, le Messie, envoyé par Dieu pour régner pour toujours, c'est de traiter Jésus avec du mépris. Mais ce ne sont pas uniquement les premiers invités qui font preuve du mépris. Ça nous mène donc à cet homme mal vêtu. Et ce qui est surprenant dans cette suite, c'est qu'il y a quelqu'un qui accepte l'invitation, mais qui termine quand même en étant renvoyé de la fête. Pourquoi? Parce qu'il est mal habillé. Verset 11, le roi entra pour les convives. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces ?» L'homme resta muet. Mais que fait-il là, cet homme? C'était la coutume de l'époque. Assister à une fête, exiger des habits appropriés pour la fête. Mais d'une certaine manière, chers amis, cela reste encore d'application aujourd'hui, cela, n'est-ce pas? Comme ma sœur va pas écouter ses prédications, ou c'est très peu probable, je prends le risque de parler de son mari, mon beau-frère. Sache que si jamais tu le regardes, je t'aime, Robert. Mais même lors des rassemblements, les plus formels de la famille, on n'en a pas souvent de tels rassemblements, mais de temps à autre, il y en a, un anniversaire spécial ou d'une fête spéciale. C'est du moins, selon moi en tout cas, implicitement spécifié qu'il faut être habillé correctement pour une telle fête. Bon, il arrive, peu importe, en jeans, chemise normale. Mais je trouve ça triste, ça manque, si j'ose le dire, de respect. J'ai envie de lui dire, mais je ne dis rien parce que je suis un bon beau-frère. Mais bon, parfois la culture change, on comprend cela. Mais ici dans la parabole, la culture n'a pas changé. Participer à une fête mal habillée montre de nouveau un mépris considérable par rapport à ce roi. Donc oui, quelqu'un qui donne l'air d'accepter l'invitation de la part de Dieu, de faire partie de ce peuple de Dieu, mais qui cherche nullement à respecter ce roi, cherche pas à honorer ce roi, cherche pas à faire la volonté de ce roi, alors cela fait preuve du même erreur qu'Israël sous l'ancienne alliance. C'est-à-dire, ils aimaient les apparences et le pouvoir de porter le nom de Dieu, mais ils méprisaient la bonté de Dieu. Ils font preuve donc d'un laxisme au sujet des exigences de ce royaume. Donc comprenez bien, ce n'est pas qu'une telle personne n'est pas suffisamment bonne pour le royaume. Non, verset 10 dit que les serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient mauvais et bons. Mais la condition que de telles personnes entrent dans le royaume, c'est qu'ils acceptent l'invitation et qu'ils font les préparatifs nécessaires. C'est normal d'honorer le roi, de reconnaître son fils, de vivre dès lors pour lui. C'est une drôle de scène, vous ne trouvez pas, versets 11 et 12? Car il semble que cet homme circulait autour de la fête en profitant tant qu'il pouvait de tout ce qu'il y avait, dans l'espoir, nous supposons, qu'avec une telle foule autour de lui, qu'il n'allait pas devoir croiser le roi lui-même. Et pourtant, c'est le festin du roi. Et donc, lorsqu'il croise ce roi, et le roi lui dit poliment mais fermement, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces ?» L'homme n'a strictement rien à dire. Il reste muet. Que c'est lui l'intrus, c'est évident. Il le sait lui-même. Toute tentative de profiter de la fête sans vouloir honorer l'autre est révélée en un instant pour le mépris qu'elle représente. Tout comme celui qui profite des choses de cette création, le plaisir, le travail, le sexe, le sport, l'amitié, l'art, la beauté, et ainsi de suite, sans vouloir honorer le Créateur, c'est du mépris. Ce n'est pas anodin, chers amis, de faire cela. C'est affreux. Voilà donc le comment de ce mépris. Alors deuxièmement, et peut-être un peu plus court, les conséquences de ce mépris. Ici, je vais inverser l'autre que vous avez dans le plan, car la destruction et l'exclusion apparaissent plus tôt dans l'histoire. Et donc, c'est là où on va commencer. Car que fera-t-il le roi suite au rejet de l'invitation et le comportement ignoble et violent de ceux qui le rejettent? Verset 7, le roi se mit en colère. Il envoya son armée pour faire disparaître ses meurtriers et brûler leur ville. Le jugement, vous verrez, viendra, tombera. C'est ici où nous voyons où aboutit la trajectoire du rejet de Jésus dont fait preuve les autorités juives à l'époque de Jésus. Ils seront ultimement détruits. Et cela sera justifié en vue de l'invitation, en vue de la générosité de Dieu, en vue de sa provision abondante, en vue de sa patience. Vous savez, la vision biblique de notre monde n'est pas un monde dans lequel il y a un Dieu indifférent et impuissant par rapport à nous. Ce n'est pas comme si Dieu boude un peu dans son palais car ils s'inquiètent que ses sujets ont trouvé un autre royaume plus attirant, plus puissant que le sien. Et donc, du coup, il est triste que les personnes importantes de ce monde ont négligé ce Dieu. Et lui, le pauvre, il n'arrive rien qu'à ramasser la lie de la société. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu n'est pas menacé par ses sujets rebelles, tout comme un père n'est pas menacé par son enfant de 2 ans qui boude lorsqu'il dit de ramasser ses jouets. Parfois, cela nous étonne d'ailleurs, de voir un parent intimidé un peu par un jeune enfant, tout jeune, comme si l'autorité du parent est en doute avec un enfant de 2 ans. Dawn me disait être avec une autre maman tout récemment lorsque son jeune enfant criait sur elle de manière agressive sans que la maman intervienne pour faire comprendre à l'enfant qui est le chef. Mais c'est normal quand même, n'est-ce pas? Mais ici, Dieu est le chef. Ce n'est pas en doute. Rejeter l'autorité de Dieu, traiter ce Dieu avec dédain, mépriser, insulter son roi, c'est le chemin qui mène à la destruction. Ah oui, pendant un temps, cela a l'air libérateur et triomphant de se débarrasser d'une autorité quelconque au-dessus de nous. On se croit fort et libre et indépendant, n'est-ce pas? Tout comme les invités ont probablement poussé un soupir de soulagement après que les serviteurs sont passés au foyer suivant. Ah, enfin, disait-il, un peu de paix pour profiter de ma série Netflix, pour écouter mon abonnement Spotify encore un peu plus. Ah, ils sont partis, oh, bah, c'est chouette. Et lorsque certains ont tué les serviteurs, eux aussi, on peut imaginer, se disaient « Enfin, je ne dois plus entendre parler de ce festin, ça m'énervait, fiche-moi un peu la paix, n'est-ce pas ?» Mais, à un moment donné, le jugement du roi tombera définitivement. Un jugement qui, dans l'image de la parabole, amènera la destruction. Et selon l'image de la fin de la parabole, signifiera l'exclusion. Verset 13, alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds, les mains, chassez-le dans les ténèbres du dehors. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ailleurs, Jésus emploie le même langage, les mêmes métaphores pour désigner l'enfer. Un endroit de regret amer, de regret éternel. Au lieu donc de participer à la fête, on sera laissé dehors. Les enjeux, voyez-vous, pour ne pas suivre le roi, le Seigneur Jésus, ce sont des enjeux éternels. Choisir de ne pas suivre le Seigneur Jésus-Christ, d'ignorer son droit sur ma vie, sur mon portefeuille, sur mes relations intimes, sur mon compte avec des autres, oui, bien sûr, pendant une courte période, éventuellement jusqu'à la fin de nos jours ici sur Terre, cela peut passer, cela peut aller. Mais un jour, Jésus viendra, et face à l'éternité, une telle décision se révélera pour ce qu'elle est, méprisante, misérable et malheureuse, car les conséquences sont lourdes. L'autre conséquence, inattendu de la part des invités, c'est laquelle? C'est l'extension du royaume. Verset 8, alors il dit à ses esclaves, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses esclaves s'en allèrent par les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le rejet du royaume, de la part des responsables, enclenche un processus pour que les moins importants, et même ceux de mauvaise réputation, reçoivent l'invitation. Le meurtre du Fils sur une croix romaine n'arrive pas à se débarrasser ultimement de Jésus, on le sait, car le troisième jour, il est revenu à la vie, et la pierre que les bâtisseurs ont rejetée chapitre 21, on a vu ce texte, est devenue la principale. Jésus revient victorieux. De même, ce n'est pas le rejet des noces du Fils par la partie bien-pensante de la société qui empêchera les noces d'avoir lieu. Les noces auront bien lieu. Le festin sera glorieux. Le royaume sera peuplé par un peuple innombrable. Dieu n'a pas besoin de l'approbation du bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre ou Woluwe-Saint-Lambert pour que le mariage ait lieu, chers amis. Ce n'est pas parce qu'en Occident, nous continuons à marcher dans le sens opposé d'un Dieu saint qui demande la repentance et la foi, que d'autres ne seront pas attirés vers ce roi. C'est frappant. Il me semble que l'Église qui grandit, d'après ce que j'ai pu lire sur l'Internet, le plus rapidement d'un point de vue évangélique actuellement, c'est en Iran. Même ici, à Bruxelles, nous avons eu la joie de voir la croissance de l'Église iranienne pour laquelle nous avons prié ces derniers temps. On parlait de nombreux baptêmes, beaucoup plus que chez nous. La fête, chers amis, sera remplie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par une grande diversité de gens, bons et mauvais, qui partageront une seule chose. Ils sont là grâce à l'invitation du roi et ils célèbrent les noces de son fils. Alors, la question qui reste à la fin est celle-ci. Participerez-vous au mariage? Avez-vous accepté l'invitation de manière à ce que vous soyez habillés correctement pour la fête? Ces questions se traduisent ainsi. Participerez-vous au rassemblement qui aura lieu à la fin des temps entre Jésus-Christ, le Fils, loin de Dieu, le Messie, et son peuple? Bénéficiez donc de sa grâce et de son pardon, de ses promesses d'être avec lui, dans son royaume de paix dans lequel il n'y aura plus jamais de tristesse, de larmes, de mal, de péché et de mort. Et avez-vous répondu à son appel de façon à ce que vous compreniez que suivre ce roi exige la repentance? Signifie de vivre pour lui, selon ses consignes. Oui, on échouera de temps à autre. Nous ne sommes pas encore à la perfection, mais nous comprenons que nous vivons pour lui. Et au lieu de vouloir bénéficier de ses dons, sans l'honorer, nous le remercions pour ses dons et nous ne faisons plus fi à sa volonté. Jésus termine la parabole comment? Verset 14, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Appelés ou invités, c'est comme les invités qui ont refusé de participer à la fête ou qui sont venus sans avoir le temps de s'y préparer convenablement. Choisis, c'est ceux qui participent. Évidemment qu'ils disent ceci au peuple d'Israël, c'est un reproche. Ils se considéraient, rien que de par leur appartenance externe au peuple d'Israël, comme étant choisis. Mais la vraie foi biblique ne tourne pas autour de ces signes externes, autour du temple que Jésus vient de condamner dans le chapitre précédent, autour donc d'une appartenance externe. Non, elle tourne autour d'une personne, la venue sur terre du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus. C'est par notre foi en lui, notre joie de le suivre, qui détermine notre appartenance à la fête de la nouvelle création. Prions ensemble pour terminer. Combien notre Dieu nous voulons te louer pour cette fête, ces noces du Fils qui vont avoir lieu. Combien nous te louons que, malgré le fait que nous sommes indignes, tu nous qualifies par ta grâce, par l'œuvre de Jésus-Christ, pour que nous puissions participer à cette fête. Et nous voulons, Seigneur, peser notre propre façon de répondre à cette invitation. Donne-nous l'humilité de voir là où nous agissons avec du mépris dans le cœur par rapport à toi. Et donne-nous de voir à quel point c'est une merveille que dans ta patience tu nous offres encore. Les noces du Fils, de l'agneau. Nous voulons y être, Seigneur, et nous te louons que nous avons cette promesse d'y participer. Que nous soyons bons ou mauvais, comme disait la parabole, parce que Jésus nous qualifie pour cela. Et nous voulons donc être préparés pour cette fête. Nous voulons comprendre que tu nous appelles à honorer le roi, le Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon pour les fois où nous voyons que cela n'a pas été le cas dans notre cœur, mais nous te demandons que tu œuvres parmi tous ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui, ici présent même, de plier le genou, de voir que Jésus est bon, que l'invitation est éternelle et qu'il n'y a rien donc de meilleur que de te suivre. Donne-nous dans nos échanges les uns avec les autres, après ces moments formels, de nous encourager à suivre le Maître, le Seigneur Jésus, à voir que la bonté du Maître est telle que l'avenir pour chacun qui t'appartient est un avenir glorieux qui durera pour toujours. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que nous avons vu ensemble. Au nom de Jésus. Amen.